Salut tout le monde et bienvenue dans À la sauce curry, le podcast des femmes qui font la science d'aujourd'hui. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast dans lequel je vous partage les coulisses de la science vues par celles qui la font. Chaque épisode, je me pose avec une femme scientifique où on parle de son domaine, son parcours, sa personnalité. Une conversation toujours pleine de curiosité et de découvertes. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, même à distance ou en petit comité, et que vous profitez bien de ce repos mérité. Aujourd'hui, je discute avec Marilyn. Marilyn est responsable de plateforme d'histologie en institut de recherche. Personnellement, j'avais cette image de la plateforme où, étant ultra spécialisée dans un domaine technique, on fait souvent la même chose, et que ça pouvait devenir chiant de faire toujours la même chose. Mais clairement, pas avec Marilyn. En l'écoutant, on comprend très vite qu'elle kiffe son métier, qui se révèle être multifacette et qu'elle aime le faire évoluer en permanence. Elle nous raconte comment ses choix d'études se sont faits au final assez naturellement et comment passer d'une équipe de recherche à une plateforme lui a enlevé cette frustration de la question sans fin, tout en comblant ce besoin d'aider son prochain. Grâce à son énergie débordante, elle mène cette plateforme telle une vraie entrepreneuse. Cet épisode est un peu spécial pour deux raisons. La première raison est qu'au-delà d'être une femme scientifique, Marilyn est une de mes amies qui m'a particulièrement soutenue pour la création de ce podcast. Comme vous l'entendrez en début d'épisode, je tenais sincèrement à la remercier pour ça. Et se poser avec elle pour parler de son parcours, bien que je connaisse déjà une grosse partie de l'histoire, m'a encore permis de découvrir de nouvelles choses sur elle, et ça, c'était trop cool. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est le dernier épisode de la saison. Et oui, après cette année un peu spéciale, j'ai besoin de faire une pause dans le podcast. Car j'ai plein d'idées pour le faire évoluer, pour vous proposer d'autres contenus scientifiques, mais je sais pas encore quoi précisément, sous quelle forme, comment, quelle plateforme, bref. Une pause dans la publication des épisodes est nécessaire pour pouvoir réfléchir à tout ça. Alors je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une saison 3, car elle est déjà en préparation. Alors si vous voulez suivre ces évolutions et ne pas manquer la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en particulier Instagram où c'est quand même là où je suis la plus active. Par exemple, si vous cherchez encore des cadeaux de Noël, j'y ai fait une petite liste d'idées cadeaux plus ou moins liées à la science et à la découverte et il y en a pour tout le monde. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, les liens sont dans les notes de cet épisode. Et pour continuer à soutenir le podcast pendant cette période, je vous invite à vous y abonner sur votre appli de podcast, que ce soit sur Apple Podcasts, Podcast Addict ou autre, et y laisser un commentaire sympa et à mettre une bonne note, au hasard 5 étoiles. Ça aide vachement pour le référencement et à faire connaître le podcast. Et surtout, j'adore lire vos petits messages qui sont toujours très cool. Mais le mieux, c'est encore d'en parler autour de vous. Alors n'hésitez pas à le partager avec votre famille, vos amis, au taf, c'est le meilleur moyen pour soutenir ce podcast. On se retrouve dans... je sais pas trop quand, mais en attendant, je vous laisse avec Marilyn. Bonne écoute. Salut Marilyn.
Salut Mélissa.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci, et toi?
Ben, c'est trop bien. Je suis super contente de t'avoir parce que enfin, on se fait cet épisode entre nous. Donc parce que ça fait longtemps que j'étais sur ma liste d'invités, très clairement, et parce qu'on va pas se mentir, on se connaît depuis quoi? 10 ans?
Ah, même plus, je pense. Zut, mais ça va faire pas loin de 10 ans, ouais, en tout cas.
Ah merde, enfin, et bim, coup de vieux dans la gueule. et donc, en fait, tu sais que je voulais faire ce podcast depuis très longtemps. Et d'ailleurs, pour ça, je suis très contente parce que je voulais te remercier pour le coup de pied au cul que tu m'as filé. Car, chers auditeurs et auditrices, sans Marilyn, ce podcast n'existerait sûrement pas.
Oh, oh ben... t'exagères sûrement. Mais merci, c'est gentil, ça me touche.
Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, je me rappelle de la conversation qu'on a eue en début d'année, il y a un an. Et en fait, tu me dis, bon, allez, mais ça, tu te sors les doigts du... hein. T'as ça depuis...
restons polis.
Voilà, restons polis. Ça fait 2 ans que t'as tourné ces épisodes, tu vas pas les laisser dans tes tiroirs, et donc, en fait, c'est vraiment toi qui m'as motivée en me disant, allez, vas-y, tu t'y mets. Et c'est pour ça que j'ai réussi à le sortir... Pour cette année.
Ah bah je suis ravie.
Ouais, alors que ça faisait 2 ans que j'avais ça qui traînait dans la tête quoi. Voilà, donc merci beaucoup Marilyn pour ça, vous pouvez la remercier.
Et bah de rien Mélissa, ça me fait très plaisir pour toi.
Et donc il se trouve que tu es aussi scientifique, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Et donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Eh bien donc je m'appelle Marilyn, j'ai 39 ans et ça fait... 15 ans que je travaille dans la recherche scientifique et 11 ans que je dirige une plateforme qui est une plateforme d'histologie, immunomarquage et microdissection laser.
Oh yeah.
Tout ça.
Allez, c'est comme ça que tu te présentes pour te la péter en société.
Exactement. C'est Istime pour les intimes.
C'est quoi ?
La plateforme Istime pour les intimes.
Istime, oh c'est mignon.
Ouais.
Wow.
Ça veut dire l'équipe histologie, tu vois.
D'accord, cool. Et alors, donc ça consiste en quoi une plateforme d'histologie ?
Alors, donc moi, je travaille dans un institut de recherche et très souvent, quand on parle d'institut de recherche, on pense aux équipes de recherche donc qui ont une question scientifique à laquelle ils doivent répondre. Et pour répondre à cette question, ils vont aller utiliser différentes techniques de la biologie, donc de la biologie cellulaire et d'autres, de la biochimie. Et ces équipes, parfois, elles ne savent pas faire une certaine technique ou elles n'ont pas le temps et elles font appel à ce qu'on appelle des plateformes. Donc, moi, je suis une plateforme de service. Donc, je suis un service support à la recherche scientifique. Et donc, les équipes de recherche qui ont besoin d'études en histologie, elles viennent me voir et elles me confient leurs échantillons pour que je fasse une prestation en histologie. Alors, l'histologie, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'étude du tissu. Ça veut dire que moi, mon intérêt, c'est de pouvoir observer la structure des tissus. Et dans mon service, donc, on crée la lame que tout le monde a déjà observée dans sa vie, même en cours de TP en troisième, la lame qu'on observe sous le microscope.
Ok, donc par exemple, la petite coupe de foie qu'on a observée, ou la petite coupe de plante, donc... Enfin...
Oui, souvent, c'est l'oignon qu'on fait. Non, je ne travaille pas sur les végétaux, mais c'est souvent l'oignon qu'on fait quand on est en troisième ou quand on est au lycée. Ouais.
Et donc, c'est ça. Donc, c'est récupérer le tissu de manière le plus intacte possible pour pouvoir observer les structures et autres observations
Exactement.
Qu'on peut faire. Ok.
Exactement. C'est que les équipes me confient leurs échantillons de tissu, donc de différents organes, avec une certaine question scientifique. Et le travail de ma plateforme, c'est de traiter ce tissu, de le préparer pour ensuite en faire des coupes que l'on va déposer sur des lames de verre, que l'on va colorer, parce que quand on fait une coupe d'organes et qu'on dépose sur lame, tout est en noir et blanc. Et nous, on va jouer aux apprentis sorciers et mettre plein de couleurs sur ces tissus pour pouvoir mettre en évidence la structure des tissus et observer au microscope, ou aujourd'hui sur des technologies plus avancées comme par exemple un scanner de lame.
Ok, bon, ben on va en parler un peu plus en détail plus tard.
Très bien.
Ce que j'adore poser comme question, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite?
Alors, quand j'étais petite, du loin que je me souvienne, je devais être au collège, je voulais être vétérinaire.
Ok.
Oui, et puis finalement au lycée, je voulais être médecin. Mmh. Et puis j'ai raté médecine et donc du coup je suis allée dans la biologie parce que c'est ce qui me plaisait. Par contre, clairement, quand tu as 10 ans ou 15 ans ou même 20 ans, tu te dis pas ah tiens, je vais être chef d'une plateforme, parce que à 20 ans, je savais même pas ce que c'était une plateforme.
Exactement. Moi, tant que j'avais pas mis les pieds dans un labo de recherche, je savais pas ce que c'était une plateforme de base. Donc
voilà, c'est exactement ça. Et à mon époque, quand j'étais à l'université, le diplôme pour travailler en plateforme n'existait pas. Aujourd'hui, il existe, mais avant, il n'existait pas.
Ah, il y a un diplôme maintenant qui existe spécifiquement pour travailler en plateforme de recherche.
Oui, en tout cas à Paris, ouais. Okay. À Paris, à l'université, alors je ne sais plus si c'est Pierre et Marie Curie ou Diderot, en tout cas sur le campus de Jussieu, il y a un diplôme de Bac plus 5 qui s'appelle Ingénierie des plateformes.
Ah, ok. Mm. Ah, je ne savais pas. Ah, trop cool.
Ouais, c'est assez récent. Maintenant, ça doit faire 5 ans qu'il existe.
Ok, d'accord. Très bon, bon à savoir. Ok, et donc... Donc, tu as dit véto, médecine et après biologie. Donc, tu as tenté la première année de médecine, c'est ça?
Exactement.
Et donc, tu as fait quoi? Une fois ou deux fois? Parce que je sais qu'il y en a qui font deux fois.
Exactement. J'ai fait première année, j'ai raté. J'ai tenté une deuxième fois. Mmh. Et en fait, le système, en tout cas à ce moment-là, donc tu n'étais pas classé pour être sélectionnée pour continuer en médecine, mais tu étais suffisamment bien classée pour avoir une équivalence à l'université. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais suffisamment bien classée pour avoir un passage vers l'université. Et donc, je suis allée directement en deuxième année de DUG. À ce moment-là, okay. Ça s'appelait un DUG, un diplôme d'études universitaires générales.
C'est quoi, licence 3, ça ?
Non, c'est licence 2 aujourd'hui.
Ok, d'accord.
Donc, je suis passée directement en deuxième année à la fac. Alors, okay. J'ai eu une séance de rattrapage sur une semaine de mémoire ou 15 jours où j'ai dû faire 30 heures de maths, 30 heures de bio, 30 heures de physique pour rattraper le niveau.
D'accord.
Et après, voilà, deuxième année de directement à l'université, bah, Pierre et Marie Curie. Non, Diderot, c'était.
Ok. Et qu'est-ce que tu as choisi ? Pourquoi tu es allée donc vers la bio ? Parce que de base, tu aimais ça ?
Exactement. C'était okay. Vraiment une matière que j'avais toujours appréciée. Enfin, quand j'étais au lycée, on avait des TP. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, je pense que ces TP, ils ne peuvent plus se faire. Mais on avait eu des poumons de cochon.
Wow.
Ouais, pour observer. Et je me souviens avec ma binôme, parce qu'on travaille toujours en binôme, on était impressionnés par cet organe. Puis il y avait le cœur aussi avec. Puis au bout d'une demi-heure, il y a le prof qui arrive et puis qui dit « Bon, bah, c'est bon, vous avez observé le poumon. » Et en fait, nous, ça faisait une demi-heure qu'on regardait le cœur. Et « Ah non, non, oui, bon, bah oui, on va regarder le poumon. » Enfin, c'était hyper sympa à faire. Moi, j'ai toujours aimé l'anatomie, la biologie, l'être vivant, en fait.
Mmh. Et ça va, t'as pas trop été déçue de pas pouvoir faire médecine ?
Bien... En fait, je pense que très vite, j'ai compris que c'était pas fait pour moi, finalement.
Ah ouais ?
Ouais.
Pendant l'année de médecine, en fait, tu sentais
non,
qu'au final...
Non, je pense que bah, j'ai raté. Je pense que si j'ai raté, c'est que je me suis pas donnée suffisamment à fond. Mmh. Et si je ne me suis pas donnée suffisamment à fond, c'était que peut-être, finalement, c'était pas le métier à vocation de dingue.
Mmh.
Enfin, après, c'est peut-être ce que je me suis dit pour me consoler, je sais pas,
ouais.
Mais voilà, je pense que j'aurais pu mieux travailler et ça n'a pas été le cas. Mais alors, c'est vrai qu'après médecine, je me suis quand même demandé ce que j'allais faire. Hein. C'était
ouais.
Ce que je voulais, c'était vraiment une envie que j'avais. Quand on m'a dit que j'avais raté, je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais avant d'arriver à Jussieu. J'ai réfléchi, j'ai regardé les diplômes qu'il y avait, qui existaient, un peu tout. Hein. Alors, je vais surtout regarder les diplômes paramédicaux.
Ok.
Kinésithérapeute,
infirmière.
Infirmière, et puis tous les métiers, psychologue,
okay.
Des choses comme ça. Et
mmh.
puis, j'avais des amis qui avaient trouvé un diplôme d'orthoptiste.
Okay.
Les orthoptistes, c'est pour la rééducation des yeux.
Mmh.
Et du coup, je me souviens, je dis « Ah ouais, super, bah, je vais faire ça aussi. Allez, les filles, on va s'inscrire. » Alors, on y va à trois, on va à l'école. J'ai le dossier, il est prêt, je suis au taquet. J'arrive devant le guichet d'inscription, là. Et là, la dame, elle me dit « Bon, ok, le dossier est complet. Bon, il y a des frais d'inscription. Les frais d'inscription, c'est tant.
Mmh. »
Et là, j'ai regardé la dame. Et j'ai dit, bah non, finalement, j'ai plus envie de m'inscrire. J'ai fait demi-tour et je suis partie. Et je me suis dit, mais...
Parce que c'était payant, c'était trop cher ?
Non, mais alors c'était cher, mais je pense que du coup, le fait de me dire, mais c'est cher, c'est pas possible, je vais pas dépenser autant pour ça, entre guillemets, m'a fait comprendre que, bah non, c'était pas ce que je voulais faire.
Ok.
Et hop, je suis partie.
Et donc, t'as choisi quoi ?
Et du coup, comme j'avais l'équivalence en deuxième année de biologie à la fac,
mmh.
j'ai fait « Bon, allez, pourquoi pas, la biologie, c'est ce que j'aime. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais allons-y. »
Ok. Et donc, pendant ces années de fac, justement, en bio, qu'est-ce que tu as ressenti ? T'as kiffé ou tu t'es dit « Ça y est, c'est ma voie, j'ai trouvé » ou pas spécialement ?
C'est une bonne question. En fait, j'ai kiffé les cours. À part la chimie organique, j'ai jamais réussi à comprendre.
Je crois que ça a été un traumatisme pour beaucoup d'entre nous.
Il fallait mettre des flèches dans tous les sens, j'ai jamais compris dans quel sens. Mais je pense que je me suis dit, bon ben voilà, je vais travailler dans la recherche.
Ok, t'avais quand même un truc recherche qui s'est dessiné à ce moment-là.
Exactement. Je me suis dit, si je ne peux pas aider l'être humain en étant médecin à guérir sa maladie, je vais peut-être pouvoir l'aider en allant dans la recherche et en allant comprendre comment se développent les maladies.
Ok, donc tu avais quand même cette notion de « je veux quand même aider les gens à guérir » et donc c'était une motivation importante quoi pour toi.
Exactement.
Ok.
C'est exactement ça. C'était « alors je vais aller dans la recherche ». Après, quoi faire dans la recherche, je ne sais pas encore, mais je vais aller dans la recherche pour voilà, comprendre les maladies, comprendre les mécanismes, trouver des médicaments. D'ailleurs, j'étais plutôt intéressée par la pharmaceutique.
Ok.
Je m'étais dit, je vais aller jusqu'au bout des études. Alors, je ne savais pas encore bac plus 5 ou bac plus 8 avec une thèse, mais en tout cas, j'irai en pharmaceutique. C'est ce que je me
D'accord.
disais.
Et tu t'es dit quand même bac plus 5.
Alors, jusqu'au dernier moment, ça aussi, c'était pas très clair. En fait, quand je suis arrivée au bout de la quatrième année, donc j'ai fait DEUG, licence, maîtrise.
Ok.
Et arrivée en maîtrise, on te demande, donc, est-ce que tu veux faire un DEA, un diplôme d'études, je me souviens plus.
Moi, je sais pas ce que ça veut dire. DEA, DESS, je sais que ça existait, que c'est
Voilà.
l'équivalent de Master Pro et Master Recherche.
Exactement.
Mais après, qui est quoi, je ne sais pas.
Alors, le DEA, c'était Master Recherche, du coup, et
D'accord.
DESS, Master Pro.
Alors, petite parenthèse pour poser ça là, une bonne fois pour toutes, car je pense que c'est une question que je me pose à chaque épisode. Bac plus 2, DEUG, bac plus 3, licence, bac plus 4, maîtrise, et bac plus 5, soit DEA qui signifie diplôme d'études approfondies et qui est l'équivalent du master recherche actuel, soit DESS qui signifie diplôme d'études supérieures spécialisées et qui est l'équivalent du master pro actuel. Fin de la parenthèse.
Et donc, arrivant en maîtrise, on te dit, est-ce que tu vas faire un master pro ou un master recherche? Je ne savais pas, ce qui fait que je suis allée visiter des laboratoires pour faire un master recherche, donc partir dans la voie du bac plus 5 plus thèse derrière. Et en même temps, je m'étais inscrite à des DESS.
Ok.
Et puis, c'est pareil, encore une fois, les rencontres que j'ai faites, les visites de labo que j'ai faites étaient hyper intéressantes. Et en plus, était d'accord pour m'accepter en stage en master et éventuellement en thèse derrière.
Cool.
Ouais. Et
Mais
puis en fait, je pense que, encore une fois, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas pour moi. Je me souviens très bien d'une visite où la maître de thèse me fait visiter le labo. Hyper intéressant. Sujet de recherche sur les neurosciences. Alors moi, j'adore les neurosciences. Le cerveau et tout, ça me fait dénigrer. Donc, sujet motivant, la maître de thèse, elle me fait visiter le labo. Et puis, à la fin de la visite, elle me dit, bon, par contre, moi, je veux que mes étudiants, ils viennent le samedi, le dimanche, il n'y a pas de jour férié, les heures, on ne les compte pas. Voilà, moi, c'est ma façon de travailler, il faut que les sujets avancent. Donc, voilà.
ok.
Ouais, tu vois. Et là, je l'ai regardée et je lui ai dit, bon, ben, c'est pas pour moi. Et donc, j'ai été acceptée dans un DESS. Et donc, j'ai fait un DESS, donc Master Pro. Ce qui m'embêtait aussi dans le métier de chercheur auquel tu te destines en général quand tu fais un bac plus 8, ce qui m'embêtait, c'est que j'avais l'impression qu'ils étaient très éloignés de la paillasse. Ils cherchaient des financements plutôt que de chercher avec leurs mains, quoi. Et moi, ça m'embêtait, je voulais faire de la paillasse.
Ouais, toi c'était le côté manuel, faire les expériences qui
Ce qui me
t'attiraient quoi.
plaisait, exactement. Donc, du coup,
Ok.
j'ai fait un bac plus 5.
Ok, d'accord. Donc c'est comme ça au fur et à mesure des visites que t'as affiné en fait ton choix au fur et à mesure.
C'est ça. Mais en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, c'était un peu à un moment T, tu vois. Je me retrouve devant le guichet de l'orthoptiste. Ah bah non, finalement, non. Je me retrouve devant la nana pour la thèse. Elle me dit que bah, quand tu es thésard, tu n'as plus de vie. Ah bah non. Voilà. Donc de l'hésitation, puis finalement, il y a un moment où non, l'hésitation n'existe plus.
Ouais, donc c'est quand tu te retrouves en fait face à des choix, enfin au moment du choix un peu déterminant où tu te dis, ah ben non, au final, c'est pas ce que je veux, ou est-ce que je suis prête à aller jusque-là pour ça? Est-ce que je suis assez motivée? Et au final, non, donc c'est pas ça que je veux.
Exactement.
En gros, t'as fait par élimination, quoi.
Non, je suis pas sûre. Je pense que c'est le bon choix se révéla au bon moment, en fait.
D'accord.
Tu vois?
Ouais. Et donc, t'as ce DESS, donc t'as ton diplôme. C'est quoi la suite?
Alors, la suite, c'est quand même un an de chômage.
Ok.
Parce que, bon, faut pas se mentir, dans la recherche, c'est quand même difficile d'y entrer. Donc, pendant un an, j'ai passé un diplôme d'anglais, je suis allée faire vendeuse en épicerie fine, j'ai fait plein de choses.
Ouais, ok.
Et puis, au bout d'un an, quand même, je me disais, Marilyn, il faudrait quand même que tu. J'ai cherché, hein, j'ai envoyé beaucoup de CV, beaucoup de lettres de motivation dans la pharmaceutique, dans la biologie, etc. Mais ça ne marchait pas. Et puis, bon, à un moment donné, quand même, faut y retourner dans la biologie. Et j'ai vu une annonce de stage de 6 mois avec potentiellement à la suite un CDD. De 6 mois aussi, renouvelable. Donc je me suis dit, écoute, si je ne peux pas rentrer par la grande porte, on va essayer la petite porte. Et donc je me suis présentée à cet entretien de stage. Et du coup, il me fallait une convention de stage. Donc je suis redevenue étudiante. J'ai dû me réinscrire à la fac. Et j'ai passé du coup un diplôme universitaire, un DU. En faisant ce stage. Mais je n'avais que le stage, j'avais pas de cours. Je n'avais que ce stage qui a duré 6 mois.
Ah, c'est marrant ça. Donc, t'as pu, en fait, avoir que le stage parce que t'avais déjà un DESS.
C'est ça.
Ok,
C'est
d'accord.
ça. Et du coup, j'ai soutenu mon stage par un rapport écrit et une soutenance orale. Et ça a validé mon diplôme universitaire.
Parce qu'en DESS, t'avais eu un stage aussi, non?
Aussi, tout à fait.
Ouais, ok. Et c'était dans quoi, les deux stages?
Alors, mon stage en DESS, c'était un stage à Servier, donc grosse boîte pharmaceutique. Et ça m'avait énormément plu parce que le sujet était très concret. Donc, j'avais 6 mois pour tester 6 molécules thérapeutiques dans pour permettre la reproduction de collagène dans les pathologies type varices. Donc, c'est de la culture cellulaire balancer ces molécules dans la culture cell et voir comment les cellules réagissent et si elles sont capables de recommencer à fabriquer du collagène. Donc j'ai beaucoup aimé la pharmaceutique vraiment et c'est ce que j'avais cherché comme métier au départ, enfin comme domaine. Et le deuxième stage, c'était dans l'institut dans lequel je travaille aujourd'hui du coup et c'était pour le coup, très recherche fondamentale, c'est-à-dire comprendre l'utilité, la fonction d'une protéine qui s'appelle, je me souviens plus comment elle s'appelle. C'est pas très important, mais du coup, voilà, comprendre le mécanisme, le rôle de cette protéine dans le développement musculaire.
Ok, d'accord. Donc, tu as eu un premier stage en pharmaceutique très appliqué et donc ce deuxième stage pour ton DU dans une équipe de recherche très fondamentale au final.
C'est
Donc,
ça.
tu as eu en fait une expérience dans les deux. Et qu'est-ce qui t'a plu le plus entre les deux?
Alors clairement, je pense que ce qui m'a plu le plus, c'est le côté très concret du pharmaceutique. La question, c'est on a 5 molécules qu'on va peut-être mettre sur le marché à une fin thérapeutique là incessamment sous peu, mais il faut savoir quelles molécules on choisit. Donc, en 6 mois, tu dois évaluer ces molécules pour savoir laquelle on va continuer à développer pour éventuellement en faire un médicament et le mettre sur le marché. Donc, ce que j'aimais, c'était que c'était très concret. En recherche fondamentale, j'ai passé 4-5 ans en recherche fondamentale en équipe
Donc après ce stage.
après ce stage, donc un an après avoir fini mes études. Et la recherche fondamentale, à mon goût, peut être parfois assez frustrante. Et il faut vraiment de la persévérance et de la détermination pour parfois pouvoir répondre à sa question scientifique. Moi, je me souviens, enfin, je sais que quand on rencontre des gens qui ne sont pas dans le milieu de la recherche, quand on leur dit qu'on travaille dans la recherche, la première question qu'ils nous posent, c'est « Ah, c'est cool, et qu'est-ce que tu trouves ?»
Ouais.
Et moi, je réponds que je ne suis pas trouveur, je suis chercheur. Donc, je cherche. Et c'est vrai que la recherche fondamentale est très importante puisqu'elle permet de produire de la connaissance. Et quand on est en équipe de recherche, on a une question et puis on va y répondre, mais elle va soulever d'autres questions. Et donc, on arrive à comprendre comment fonctionnent les maladies, on arrive à comprendre quel est le rôle de la molécule alpha dans le complexe bêta, dans le mécanisme delta de tel processus cellulaire. Et c'est très bien de savoir ça. Mais le côté frustrant pour moi, c'était que je ne voyais pas la fin.
Ouais.
Et du coup, quand je me suis retrouvée en plateforme, et ben là, j'avais plus cette problématique et mon métier dans la plateforme, du coup, est d'autant plus satisfaisant pour moi parce que là, pour le coup, je suis dans du concret. On vient me voir avec un projet précis et j'y réponds.
Ok, alors avant de passer à la plateforme et ce que tu fais vraiment, comment justement t'es passé donc de l'équipe de recherche à la plateforme?
Alors, par hasard, entre guillemets, par chance, ou parce que la vie fait que, on est là au bon endroit au bon moment. Et donc, j'ai passé 5 ans en équipe de recherche où j'ai développé des compétences diverses et variées, donc dans différents domaines de la biologie et notamment en histologie. Et puis, la première chef que j'ai eue en arrivant dans mon institut, elle m'a permis de faire plein de choses au niveau aussi administratif, gestion. Elle me donnait des responsabilités, des activités, des tâches à faire autres que de la biologie et qui me plaisaient beaucoup. Et elle m'a aussi donné le goût du collectif, de faire des choses pour le collectif. Et puis, au bout de 4 ans, je croise une collègue dans les couloirs qui me dit « Tu sais, Marilyn, le poste de responsable de la plateforme d'histologie est vacant. La responsable est partie. Et du coup, il cherche quelqu'un. Tu devrais y aller. » Et je lui dis « Mais non, je ne peux pas. Là, je suis en CDD. J'en ai encore pour 1 an. Ça ne se fait pas. Je ne peux pas partir comme ça. » Et elle me dit « Là, c'est quand même une belle opportunité parce que peut-être que derrière, il y aura un concours. » Et puis, ça peut être intéressant pour toi. Et puis, tu as les compétences, donc réfléchis-y. Donc, OK, j'ai réfléchi. Je me suis dit, c'est vrai, travailler sur une plateforme, pourquoi pas. Et puis, une belle opportunité d'être responsable du service, éventuellement d'avoir le concours derrière. Allez, Marilyn, vas-y.
Sachant que avoir la perspective d'avoir un concours derrière est quand même énorme en recherche, parce que qui dit concours dit poste poste pérenne en fait.
Exactement.
Devenir fonctionnaire de la fonction publique, et donc t'as ton poste à vie, et ça, pour pouvoir continuer à être dans la recherche, c'est un peu le Saint Graal que tout le monde cherche en fait.
C'est ça.
Ouais.
C'était une vraie belle opportunité.
Mmh.
Donc, j'ai fait « OK, allez, j'y vais ». Donc, j'ai sollicité un rendez-vous avec le directeur de l'institut. Et il m'a dit « Banco ».
OK.
Il m'a dit « OK ». Donc, ça, c'était en avril 2009. Et en septembre 2009, je suis arrivée sur la plateforme.
OK. Et donc là, en septembre 2009, donc tu es responsable de la plateforme, mais pas encore avec le concours, c'est ça, hein?
Non, toujours en CDD.
OK. Donc, tu es en CDD, tu es responsable de la plateforme. Et alors, c'était quoi ton rôle exact? Quel était ton but en tant que responsable de plateforme?
Alors, moi, j'avoue, j'ai adoré ce moment-là. En fait, la plateforme, elle a fermé au mois de janvier. Moi, je suis arrivée au mois de septembre. Et il y avait tout à refaire, en fait. Il y avait tout à remettre en place. Il y avait toute l'organisation à revoir. Et en fait, je n'ai pas commencé toute seule, j'ai commencé avec une collègue. Donc, on était deux à remettre la plateforme en route. Donc, il y avait plusieurs objectifs. La plateforme, au départ, elle était un peu plus fermée. Ouais, un peu plus fermée. Moi, je voulais une plateforme vraiment très ouverte pour les équipes de mon institut, mais aussi pour les équipes extérieures, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Je voulais offrir plein de prestations et je voulais qu'on soit performant. Et donc, ma collègue, elle a pris en charge plutôt la partie machine, équipement, puisque sur une plateforme, on met aussi à disposition des équipements pour les utilisateurs, pour nos chercheurs et pour nos étudiants, et qui nous servent aussi pour nos prestations de services. Donc, elle a pris en charge plutôt la partie réhabilitation du plateau technique.
OK.
Et moi, j'ai repris en charge toute la partie gestion, management, finance, quelles prestations, quels consommables, quels tarifs. Avoir une organisation où on avait des procédures, des protocoles bien établis pour pouvoir faire la traçabilité des échantillons. On nous fait une demande, on doit répondre à la demande comment, on doit la rendre dans quel délai. Donc toute une partie démarche qualité qui était très importante et à mettre en place. Et du coup, bah voilà, on a commencé comme ça petit à petit. Donc en 2010, on travaillait pour 10 équipes et on avait 7 machines. Et aujourd'hui, donc on est en 2020. J'ai 13 machines et on travaille pour 60 équipes internes, externes et publiques ou privées.
Ah ouais, donc en 10 ans, t'as fait un énorme boulot, quoi. Enfin, vous avez fait un énorme boulot pour développer la plateforme. Mais justement, alors ce côté que visiblement t'as kiffé, tout le côté développement, gestion, c'est comme une mini-entreprise en fait que tu
Exactement.
montes.
Ouais, complètement.
Mais comment t'as appris? Parce que c'est un côté qui n'est pas du tout intégré dans une équipe de recherche. En tant qu'ingénieur d'études, on ne fait pas du tout ça. Comment t'as appris et comment t'as mis en place tout ça?
Alors, j'ai appris sur le tas, je pense. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ma première chef, elle m'avait appris à passer des commandes, elle m'avait appris à gérer un stock, elle m'avait appris à être dans le collectif, donc aider les gens, rendre service. Alors, aussi, dans notre institut, on a plusieurs plateformes, on est 10 plateformes. Donc, c'est vrai que je suis allée voir sur le site internet de mes collègues, je suis allée discuter avec eux, j'ai vu leurs documents. Et donc, voilà, tout ça, ça m'a inspirée pour mettre en place mon organisation, les prestations à faire. Après, il y a des choses que je ne savais pas faire et qui ont pu être difficiles. Par exemple, établir un cahier des charges dans un dossier de demande de financement. La première fois que j'ai dû le faire, déjà un cahier des charges, c'est quoi?
Ouais,
voilà.
Ce que j'allais te dire, c'est est-ce que dans une équipe de recherche, on ne sait pas ce que c'est? Ça, c'est plus un langage d'industrie, en fait, plus que.
Alors, non, c'est, je pense, un langage de chercheur aussi, surtout. C'est vrai qu'il y a eu des moments où je me suis dit, bah, tu vois, Marilyn, tu ne voulais pas être chercheur parce que tu ne voulais pas chercher d'argent, mais finalement, tu es responsable de plateforme et tu cherches des sous pour acheter des machines.
C'est vrai.
Voilà. Donc, un cahier des charges, c'est établir toutes les spécificités, les fonctionnalités, les caractéristiques que tu souhaites pour demander une machine. Tu as besoin d'une machine, tu veux qu'elle fasse telle chose. Et donc, tu établis un cahier des charges très précis pour obtenir l'équipement qui te convient le mieux.
Ok, donc en gros, c'est dire pourquoi tu as besoin de cette machine-là, qu'est-ce que ça va apporter à la plateforme, à l'institut, et que c'est ultra nécessaire, quoi.
C'est ça. Donc ça, c'est
Ok.
l'argumentaire.
Ouais.
Dans ton argumentaire, tu dis pourquoi tu en as besoin, pour qui, pour quoi faire, dans quel but, à quelle échelle. Échelle de l'Institut, échelle de l'Île-de-France, du National. Et le cahier des charges, c'est vraiment lié à ta machine. Ma machine, il faut qu'elle fasse qu'elle ait telle caractéristique, qu'elle fasse telle chose avec telle option, telle fonctionnalité pour que je puisse répondre aux besoins de mes utilisateurs.
Ok. Ouais, donc c'est de la paperasse à fond, quoi.
Ah bah c'est des dossiers ouais, que tu rédiges. Il faut aller interroger les équipes de ton institut et d'ailleurs pour leur demander bah voilà, de t'écrire pareil, un petit paragraphe qui va étayer pourquoi le besoin. Il faut que tu fasses une étude de marché Alors, moi, j'ai un besoin, je veux une machine, mais laquelle je vais prendre et comment je la choisis? Bah, du coup, il faut faire une étude de marché pour aller voir ce que te propose le marché. Telle machine a telle fonctionnalité, une autre machine en a une autre, bah, pourquoi je vais choisir plus celle-ci plutôt qu'une autre? Donc, tu te demandes des démonstrations sur site, tu demandes à aller dans des workshops, tu demandes à aller dans leurs entreprises. Après, tu fais un résumé de tout ce que tu as vu et de tout ce que tu aimerais avoir. Et tu établis ton cahier des charges.
Ok, ouais, donc c'est au final, t'es loin de la paillasse là.
Ah oui, au moment où je fais ça, je suis loin de la paillasse.
Et ça te plaît quand même, justement, toute cette partie, le fait de plus être là à la paillasse, ça t'a pas manqué?
Alors, par moment, ça m'a manqué. En fait, il y a eu un moment où je faisais beaucoup, beaucoup de ce type de choses et beaucoup de gestion. Ouais. Beaucoup de demandes de financement et ça me manquait. Et du coup, j'essaye d'y revenir régulièrement. Et à chaque fois que j'y retourne, c'est avec un très grand plaisir.
Ok, donc t'arrives quand même, maintenant que t'as lancé la plateforme, donc c'est après quelques années, combien de temps t'as mis justement pour remettre la plateforme sur pied et qu'elle soit fonctionnelle?
Bah, finalement, ça a été assez rapide. Enfin, je dirais que. On va dire que j'ai mis un an à la rendre fonctionnelle et à proposer des prestations de base et des formations et mises à disposition d'équipements que en interne. Et puis, ou peut-être 2 ans. Et puis, c'est vrai qu'à partir de 2012, je dirais, il y a eu une croissance encore aujourd'hui, on ne fait que agrandir le nombre d'utilisateurs. D'ailleurs, je dis 60 parce que c'est l'année du Covid, mais l'année dernière, j'avais 75 équipes utilisatrices. Parce que chaque année, ça varie un peu. Et ce chiffre ne cesse d'évoluer. Les prestations, c'est pareil. Chaque année, j'essaye de mettre au point des prestations. Finalement, ce que j'aime dans mon métier aussi, c'est que je la fais évoluer tout le temps. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Tout le temps, j'ai des nouvelles technologies à proposer, tout le temps, j'ai des nouvelles machines, tout le temps, et puis j'ai envie de leur proposer. En ce moment, justement, en ce moment, je retourne sur la paillasse, parce que tout ce qui est mise au point, développement de technologies, nouvelles techniques, nouvelles techno, c'est moi qui le prends en charge. Ça, je me le garde, c'est mon
Ton
plaisir.
petit plaisir.
Voilà, c'est ça, c'est mes jouets. Donc, je me le garde pour moi, tout ce qui est développement de nouvelles techniques, de nouvelles techno. Et tu vois, ça n'arrête pas en fait. Peut-être que l'année prochaine, là pour l'instant, je n'ai pas d'idées nouvelles, mais enfin, j'en ai deux qu'il faut que je développe pour l'année prochaine. Mais disons pour 2022, je ne sais pas encore ce que je vais développer, mais c'est sûr que je vais trouver une nouvelle chose à développer.
Et ça justement, parce que bon, on se connaît, comme on l'a dit au début, hein, on se connaît depuis longtemps, et ça, je sais que ça a toujours été ton caractère aussi de toujours avancer, challenger et faire évoluer les choses. Mais concrètement, comment t'arrives à te tenir justement au courant de toutes ces technologies? Parce que ça prend aussi du temps de savoir ce qui se fait, comment se développent les machines, ce qui est possible, etc.
Alors moi, ma première mine d'information, ma première source d'information, c'est les salons de fournisseurs. Chaque année, il y a plusieurs salons qui se font où tous les fournisseurs d'histologie, de diagnostic, parce que finalement, mon métier, enfin mon domaine de la biologie qui est l'histologie, est très très utilisé dans le médical, puisque ça permet, par exemple, à un patient, on lui fait une biopsie, justement pour savoir si son cancer est malin ou bénin, par exemple, et ben, on fait une biopsie, on traite cette biopsie pour en faire une coupe, une coloration, et déterminer si c'est malin ou si c'est bénin. Donc, cette technique d'histologie, elle existe dans le domaine médical, et donc il y a des salons médicaux, de diagnostic médical, dans lesquels je vais aussi. Et donc, en faisant tous ces salons dédiés au diagnostic médical ou à la recherche, eh ben voilà, je rencontre les fournisseurs, je discute avec eux, je vois les machines qui sont exposées, je réfléchis, est-ce que ça pourrait plaire à... Enfin, plaire. Est-ce que ça pourrait être utile à mes utilisateurs ou pas? Est-ce que ça pourrait être utile à ma plateforme de développer ça? Et ça, c'est ma première source d'information. La deuxième, c'est un congrès d'histologie. Le congrès d'histologie au niveau national, qui est le congrès de l'AFH. Association française d'histotechnologie. Et je fais partie du bureau de cette association. Et donc chaque année, on organise un congrès qui réunit toutes les personnes qui travaillent sur l'histologie au niveau national. Et encore une fois, ben, du coup, on rencontre les fournisseurs en histologie, mais aussi on discute avec nos collègues histologistes de toute la France. Et donc on échange sur des techniques, des idées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles méthodes. Et voilà, c'est ça surtout mon étude de marché.
Ouais, donc tu es aussi investi à l'extérieur de ta plateforme pour justement entretenir cette veille technologique et continuer à faire développer ta plateforme en fait.
C'est ça.
Ok.
Et puis ce que tu disais tout à l'heure aussi, tu as dit, en fait finalement quand tu es arrivé, c'était presque comme une entreprise, comme une mini-entreprise. Et c'est tout à fait ça en fait. J'ai mon budget de fonctionnement, je fais mon recrutement, je mets des annonces pour recruter des gens, je les vends en entretien, je les prends ou je ne les prends pas. J'ai un budget de financement pour acheter mes consommables, acheter des machines. Enfin, je fais évoluer. Et puis, j'ai des recettes, puisque mes prestations, je les facture. Donc, effectivement, j'ai des entrées, j'ai des sorties, j'ai des nouvelles machines, des nouvelles personnes, comme une mini-entreprise.
Ah ouais, sans le risque d'investissement, puisqu'au final, t'as eu le concours. C'est vrai qu'on l'a pas dit, donc il y a eu le concours comme promis, entre guillemets, après ton un an de CDD,
c'est ça?
C'est ça. Ok, donc après un an, t'as bien eu le concours.
Oui.
Et donc là, en fait, t'as un poste pérenne et tu peux développer autant que tu veux ta plateforme, quoi.
Oui.
C'est trop bien.
Oui.
C'est la bonne planque, en fait.
Bah après, il y a beaucoup de personnes qui me demandent bah justement, la plateforme, est-ce que ça te plaît? Avant, tu étais en recherche. Est-ce que ça ne te manque pas l'équipe de recherche et le fait de travailler sur un projet précis, etc. Et pas du tout, en fait. Comme je disais tout à l'heure, hein, quand tu travailles sur un projet de recherche, ok, tu travailles sur plusieurs techniques différentes. Biologie cellulaire, moléculaire, in vitro, biochimie, plein de choses, protéo, et ce que je ne fais plus aujourd'hui. Mais cette frustration de ne jamais répondre vraiment à la question à la fin, ça me gênait énormément. Alors qu'aujourd'hui, bah, j'ai une équipe qui vient, qui me dit « Bon, bah, Marilyn, j'ai besoin d'une prestation pour répondre à cette question. La prestation, c'est ça, ça. » Enfin, ce que je veux voir, c'est ça, ça. Qu'est-ce que tu me proposes comme prestation? Eh bien, je te propose ça, ça. Et la personne, elle me dit, d'accord, on fait ça, je le fais, et elle est contente. Et moi aussi, tu vois, c'est carré, c'est fini. Et bon, ce qui me plaît, c'est la diversité de mes activités.
Ouais.
C'est-à-dire que je fais de la paillasse, j'y arrive quand même,
ouais.
Et de la gestion, et du relationnel avec mes utilisateurs, et de la communication, et toute cette multitude d'activités me plaît, en fait. Même si je ne fais que de l'histologie, entre guillemets. Et je dis entre guillemets que de l'histologie, parce que l'histologie, c'est de la préparation d'échantillons, de la coupe, de la colo, de l'analyse, de l'imagerie, de l'immunomarquage, à côté des colorations histo. Donc, de toute façon, dans l'histologie, j'ai plein de petites techniques différentes.
Ah, donc tu restes quand même très polyvalente, autant scientifiquement, techniquement, et aussi tout ce qui est côté gestion, management, que tu as appris sur le tas, quoi.
Oui.
Ok, et qui au final te déplaise pas.
Ah bah carrément pas.
Ok. Bon, bah, c'est trop cool. Donc le fait que tu sois toujours justement en développement comme ça, en évolution, et que tu as envie de faire évoluer donc la plateforme et ta carrière, c'est quoi tes projets pour la suite?
Alors, en fait, mes projets, ils évoluent aussi sans cesse. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 2 ans, j'avais pour projet d'apporter une nouvelle méthode de travail à mes utilisateurs. Donc, j'ai acheté une machine qui permet à mes utilisateurs, plutôt que de traiter un grand nombre d'échantillons, d'en traiter qu'un seul, en fait, puisqu'on va réunir tous ces échantillons dans un seul conditionnement. Donc, ça, c'était une nouvelle méthode de travail. Mais par exemple, cette année, mon projet, c'est de leur apporter une nouvelle façon d'analyser le tissu, donc au niveau histologique, c'est-à-dire au niveau de sa structure, hein, donc de sa morphologie, mais aussi de connaître dans sa morphologie en entier, sur chaque territoire, quelle est l'expression des gènes. Et donc, en fait, de faire une cartographie de l'expression des gènes versus une cartographie du tissu au niveau territorial, et de faire une superposition des deux. Et donc, ça, c'est une très nouvelle technologie qui apparaît et qui va vraiment leur permettre d'avoir énormément d'informations sur un seul échantillon. Et de pouvoir savoir exactement quelle est l'expression d'un gène dans tel endroit de l'organe, c'est hyper important et ça va leur apporter une mine d'informations en fait. Et peut-être que l'année prochaine, même si je ne sais pas encore ce que ce sera, enfin bien qu'il faut que je continue de développer ça l'année prochaine parce que ce n'est pas en 6 mois que ça se développe, mais peut-être que l'année prochaine, mon nouveau projet, ce sera d'acheter une nouvelle machine pour faire plus de reconnaissance protéique sur mon tissu, par exemple.
D'accord. Donc en gros, tu sais pas à long terme quels vont être tes projets, mais tu sais que tu auras toujours des projets à venir grâce à l'évolution technologique et en
Oui.
fait et donc en fait t'as pas peur justement de pas trouver de projets de comment faire évoluer ta plateforme.
Alors, c'est une bonne question. À un moment donné, peut-être que le marché aussi va faire que bah, on va plus avoir de nouvelles machines hyper révolutionnaires ou plus de nouvelles technologies à proposer parce qu'on aura déjà fait. Mais l'histologie, en fait, à la base, c'est de la coloration de l'organe. Et ça, on peut en faire des tonnes. Aujourd'hui, je propose peut-être 15 colorations du tissu. Mais j'ai des livres, des bibles de l'histologie où j'en ai encore 50 autres à explorer. Et par exemple, demain, je vais peut-être me dire de façon plus modeste, bon, bah, là, je vais proposer une nouvelle coloration parce que ça peut être utile à mes utilisateurs. Et au lieu de passer 1 an à développer une grosse techno, on va peut-être passer 1 mois à développer une nouvelle coloration. Mais le but, c'est toujours d'offrir à mes utilisateurs quelque chose de nouveau pour eux et qui va leur être utile. Et ça, je l'aurai toujours.
Ouais, t'as pas peur justement de manquer d'idées là-dessus ou
Pas pour l'instant, en tout cas.
Ouais, ça fait 10 ans que tu fais et au bout de
Ouais.
10 ans, t'es toujours aussi les idées fructuent toujours autant
Voilà.
quoi. Ok, cool.
Ouais.
Et donc justement, en parlant d'évolution de carrière, tout ça, je voulais savoir, donc je sais que tu es maman d'une petite fille. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi de devenir maman et par rapport à ta carrière et à ce que tu veux faire professionnellement?
Alors, là, ce qui a changé concrètement dans ma vie quand je suis devenue maman, c'est les contraintes horaires.
Ouais.
C'est-à-dire qu'avant, je commençais ma journée quand je voulais et je la terminais quand je voulais. Et depuis que je suis maman, je dois emmener ma fille quand elle était petite à la nounou, puis aujourd'hui à l'école. Donc, j'arrive au travail après avoir fait ça. Et j'ai mon alarme le soir qui sonne pour dire, bah, Marilyn, là c'est l'heure, il faut aller récupérer ta fille. Ça, avant, je ne l'avais pas. Et je me souviens qu'au début, j'avais l'impression de moins bien faire mon métier, c'est vrai. Parce que j'avais moins de temps et qu'aujourd'hui, j'avais prévu de faire ça, 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 et finalement, j'ai fait que ça, ça. Je suis obligée de reporter au lendemain le reste. Donc, je trouvais que je travaillais moins bien. Mais finalement, c'est un rythme à prendre. Et puis, il y a des fois, on dit que quand on est plus efficace quand on travaille dans l'urgence. Donc là, bah, du coup, j'avais des journées plus courtes. Et puis finalement, je me suis habituée à ce rythme-là. Donc voilà, concrètement, ce que ça a changé, c'est surtout dans mon quotidien. Après, pour ma carrière, de base, l'évolution de carrière en recherche, il faut le dire, dans la recherche publique, elle n'est pas simple. Moi, je travaille dans un institut de recherche où on a 3 types de salariés différents. Soit ils sont financés par l'INSERM, soit par le CNRS, soit par l'Université de Paris. Donc l'INSERM et le CNRS étant des organismes d'État qui financent la recherche, et l'Université de Paris, donc une université. Et c'est vrai que l'évolution de carrière, quelle que soit la tutelle, est quand même assez difficile. Donc moi, ça fait 15 ans que j'ai commencé. Ça fait 11 ans que je suis sur la plateforme. Et ben, il se trouve que hier, j'ai eu ma première promotion en 11 ans.
Voilà. Enfin, alors, félicitations pour ta promotion. Ouais. Après, est-ce qu'on est content d'avoir une promotion que après 11 ans ?
Ben, voilà. C'est pour ça, il faut le dire, l'évolution de carrière dans la recherche publique peut être longue. Et alors, comment on fait pour évoluer dans la carrière? Alors, c'est souvent donc, sur dossier, tu vois, tu disais, est-ce qu'on peut être content d'avoir eu une promotion qu'au bout de 11 ans? Et bien, en fait, c'est une bonne moyenne. C'est-à-dire que pour mon cas, par exemple, mais ce qui va être le cas pour l'INSERM ou le CNRS, je ne pouvais prétendre à une promotion qu'au bout de 7 ans.
D'accord. Alors, quand on dit promotion, c'est un grade au-dessus.
C'est ça. C'est une évolution dans le grade au-dessus ou dans le corps de métier au-dessus.
Et donc, ce qui fait que, niveau du salaire, ça n'a pas bougé pendant 7 ans ou tu as quand même eu des augmentations de
Alors,
salaire
si
possibles?
Il y a des augmentations de salaire parce que dans chaque... corps de métier. Donc en fait, dans la recherche, il n'y a pas que des chercheurs, hein. Il y a des adjoints techniques, au-dessus des techniciens, ensuite des assistants ingénieurs, des ingénieurs d'études, des ingénieurs de recherche et des chercheurs. Mmh. Et dans chaque corps de métier, il y a des échelons. Mmh. Donc pendant 7 ans, j'ai passé des échelons. Donc je suis arrivée okay. Échelon 3 ou 4, je crois, parce que ça reprend l'ancienneté. Mmh. Donc j'ai été prise au moment du concours à l'échelon 3 ou 4. Et donc, j'ai évolué jusqu'à l'échelon 8, je crois, de mon corps. Et, et dans chaque corps, en plus des échelons, il y a des grades. Donc, par exemple, ingénieur d'études, qui est mon cas, on peut être ingénieur d'études classe normale ou ingénieur d'études hors classe, qui est le grade au-dessus. Donc,
okay.
Hier, j'ai appris que j'étais passée de ingénieur d'études classe normale à ingénieur d'études hors classe.
Oh yeah.
Voilà, donc ça va me faire une augmentation de salaire. Mon métier ne change pas, mais ça va me faire une augmentation de salaire.
Mmh.
Et ça peut aussi amorcer une promotion dans le corps supérieur, c'est-à-dire le corps des ingénieurs de recherche.
Ok, donc en gros, t'étais dans la step, dans la moitié, entre guillemets, dans la moitié basse de l'ingénieur d'études. Là, tu viens de passer dans la moitié haute d'ingénieur d'études, qui est le passage obligé. Si tu veux devenir ingénieur de recherche après.
C'est ça, tu as tout bien
Ok.
résumé, Mélissa.
D'accord. Et donc, je suppose que c'est un objectif de
Ah
passer
oui,
ingénieur de recherche.
complètement. Mais c'est vrai que bah là, je me dis que je suis peut-être partie pour 10 ans de rien et dans 10 ans, une promotion.
D'accord. Et qu'est-ce que ça t'apporterait de passer ingénieur de recherche par rapport à ingénieur d'études? Ça changerait vraiment concrètement quelque chose à ton métier?
À
Ou
mon
c'est juste en
métier,
fait de
rien.
la reconnaissance. Ok.
C'est de la reconnaissance.
Ouais.
C'est
Ok.
exactement ça. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, mon métier est déjà en fait du niveau du corps des ingénieurs de recherche.
Mmh.
Mais comme je n'avais pas le diplôme, c'est-à-dire que enfin, on peut rentrer ingénieur de recherche en faisant bac plus 8, ce qui n'est pas mon cas. Et d'ailleurs, quand j'ai été titularisée, donc, à l'obtention de mon concours, j'ai rencontré le doyen donc, de ma faculté pour une visite de bienvenue, enfin un rendez-vous de bienvenue. Et je me souviens très bien que ce jour-là, donc tu viens d'avoir ton concours, tu es contente, et il te dit « Est-ce que vous avez fait une thèse ?» J'ai répondu « Non ». Il m'a répondu « Oh bon, bah, vous ne deviendrez jamais ingénieur de recherche. » Ok.
What?
Ouais.
Ok.
Donc voilà, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ce genre de discours, hein, clairement. Tout dépend de comment on travaille, de ce que l'on fait comme travail, tout dépend des fonctions qu'on occupe. Mes collègues, et sont tous aujourd'hui en tout cas, c'était peut-être pas le cas il y a 2 ans, mais au jour d'aujourd'hui, ils sont tous ingénieurs de recherche. Et j'espère bien devenir ingénieur de recherche. Parce que les activités que je fais font partie du corps des ingénieurs de recherche. Et
Oui.
effectivement, on te dit que pour avoir ce type de promotion, la thèse, c'est important. C'est-à-dire qu'à dossier égal, peut-être que quelqu'un qui a une thèse va passer avant moi, par exemple. Mmh. On te dit aussi que ce qui est important dans l'évolution de carrière, dans les promotions, c'est l'ancienneté ou c'est l'âge. Des fois, mmh. on te dit « bah non, mais t'es trop jeune pour être ingénieur de recherche. Il y en a qui sont plus vieux, ils vont passer avant toi. »
Mais pas sur l'expérience, en fait.
Alors, elle joue, mais l'évolution de carrière dans la recherche publique, elle se fait aussi sur l'ancienneté, l'âge aussi.
Ok.
Pas que sur les fonctions que tu occupes.
Ouais, ok. Ce qui est un peu dommage, je pense. Mais bon, c'est un système comme un autre, quoi.
Voilà, c'est-à-dire que à un moment donné, pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'à dossier vraiment équivalent, deux personnes qui ont exactement les mêmes fonctions, enfin, ou le même type de fonction, le même type d'encadrement, le même type de responsabilité, bah, peut-être que, je ne sais pas, hein, honnêtement, je ne sais pas si c'est mieux ou pas, on va peut-être faire passer celui qui a 50 ans et ça fait 20 ans qu'il est là, plutôt que celle qui en a 40 et ça fait 10 ans qu'elle est là.
Ouais, ce qui paraît logique aussi en même temps, mais bon.
Bah, il faut toujours que se dire que ça peut être un critère à dossier égal.
Oui, c'est ça, c'est à dossier égal. C'est ça qui va primer. Mais il faut que le dossier soit équivalent, en fait. Voilà. Les deux dossiers, il faut qu'ils soient équivalents, quoi.
Oui. Ce serait dommage que juste là, je sois un critère prédominant.
Ok, bon, mais écoute, on va te souhaiter de passer ingénieur de recherche avant 10 ans.
C'est ce serait ça. Cool.
Avant que je passe aux dernières petites questions, parce que ça y est, on arrive sur la fin, est-ce que tu voulais aborder un sujet en particulier ou pas spécialement ?
Non. Tu veux que je dise un truc là, Mélissa ? On a discuté d'un truc. Ça, tu le couperas au montage aussi. Hein.
Désolée, Marilyn, j'ai pas coupé.
Non, d'un coup, je me suis dit, mince, Mélissa me demande ça, peut-être qu'on avait prévu de dire un truc et que j'ai oublié.
Ah ouais, non. Non, c'est juste, c'est juste si t'avais envie de parler d'un truc en particulier ou...
Non.
Non, bon, pas de soucis.
Attends, je réfléchis.
Réflexion intense. Non, mais il n'y a pas...
Non, il y a une question que tu poses souvent, mais je ne sais pas si tu vas me la poser ou pas. Ou peut-être que j'ai déjà répondu. Il y a une question que tu poses souvent, c'est est-ce que tu as eu des exemples ou des modèles ? Alors souvent, les gens, ils te répondent les parents. Bon, sûrement que je vais répondre que mon père avait Science et Vie dans sa bibliothèque. Mais comme j'ai déjà parlé de ma première chef, qui m'a beaucoup marquée, je ne sais pas s'il faut que tu reposes cette question.
T'es complètement en avant, justement. J'allais te poser les questions.
Ah, pardon.
De dernière, voilà. Les deux petites dernières questions que je pose souvent, c'est donc, est-ce que t'as eu des rôles modèles au cours de ta carrière ?
Alors, je pense que mon intérêt pour les sciences ou pour ma curiosité pour l'être vivant, parce que j'aime bien dire ça en fait, j'aime bien l'être vivant. Je pense qu'il me vient depuis que je suis petite. Moi, quand j'étais petite, j'adorais regarder les fourmis. Tu vois, j'allais dans mon jardin, je regardais les fourmis, je pouvais y passer une heure à regarder les fourmis, à voir comment elles se comportent. D'ailleurs, des fois, je tuais des fourmis, je les lançais dans les toiles d'araignée pour voir comment l'araignée venait manger la fourmi. Donc, tu vois le...
Déjà le côté expérience.
Voilà, c'est exactement ça. Déjà le côté
un peu cruel.
Ouais,
mais...
j'avoue. Bon, après, la fourmi, peut-être qu'elle ressent moins la douleur. Mais voilà, j'avais un intérêt. Et puis, quand j'étais petite, mes parents, sûrement à ma demande ou pas, mais je me souviens qu'on m'a offert un microscope où du coup, je regardais mes cheveux, je regardais mes fourmis écrasées. Et puis, mon père avait sa collection de Science et Vie dans la bibliothèque. Et alors, je ne comprenais rien, mais j'aimais bien feuilleter.
OK.
Donc, je pense que c'est quelque chose qui a dû m'influencer grandement. Mmh. Et c'est vrai que la première chef que j'ai eue à l'Institut, quand je suis arrivée, elle m'a vraiment donné le... Je pense que c'est elle qui m'a, sans être un mentor, mais je pense que c'est elle aussi qui m'a construite dans mon métier d'aujourd'hui. Qui m'a donné cette envie de faire plein de choses. Enfin, aujourd'hui, je dirige ma plateforme, mais je suis aussi membre du bureau de l'Association française d'histotechnologie, représentante du personnel, vice-présidente du comité ITA, je fais la fête de la science, je suis coordinatrice des apprentis-chercheurs. Et en fait, tout ça, je pense que ça me vient de ma première chef qui m'a vraiment fait confiance, qui m'a donné des activités autres que des activités scientifiques. Et qui m'a vraiment amenée, alors avec elle, je faisais le Téléthon, SIDAction, voilà. Et je pense que voilà, depuis que je suis petite, c'est vraiment de l'intérêt pour le vivant, l'anatomie, science et vie. Et ensuite, ma première chef qui a construit, je pense, en partie, la personne que je suis dans mon métier, en tout cas dans
D'accord.
mon institut, la façon dont je m'implique.
Ok. Et donc dernière question, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire, qui veut se lancer dans la recherche bio et plus particulièrement se former dans les plateformes, parce que tu dis justement que maintenant il y a des diplômes spécialisés pour former les gens à bosser dans les plateformes.
Oui. Du coup, ce serait mon premier conseil, effectivement, si tu as envie de travailler sur une plateforme quand tu as 15 ans, ce qui m'étonnerait. Mais si ton projet, quand tu arrives à la fac, est d'aller sur une plateforme, oui, il faut suivre le diplôme qui est ingénierie des plateformes. Mais c'est aussi de ne pas hésiter à aller faire son expérience, ne pas hésiter à repartir du bas en fait. Hein. Moi, j'ai quand même fait 1 an de chômage et puis j'ai débuté par un stage. Je me suis réinscrite à la fac. J'ai de nouveau eu un pass Navigo. Je pouvais de nouveau payer moins cher au cinéma. C'était bien. Mais voilà, quoi, il fallait en passer par là. Donc, il faut pas se démotiver. Il faut pas écouter les gens qui te disent, ah, t'as pas de thèse, t'évolueras pas. Parce que c'est pas vrai. Et voilà, je pense qu'il faut suivre ses envies, que peut-être parfois, voilà, on n'a pas forcément ce qu'on veut à un moment, mais que les choix à faire arrivent au bon moment et sont forcément les bons. Je pense qu'il faut suivre aussi la vie. Je pense que la vie, elle est aussi faite de moments. De chance ou de moments à saisir, ou de moments où tu es au bon endroit. Et voilà, il faut les prendre et il faut pas non plus penser que aux autres. Pour évoluer dans sa carrière, il faut aussi se dire je pense à moi et je construis mon bonhomme de chemin.
Ok, suivre son instinct.
Aussi. Suivre son instinct et la vie est plutôt bien faite, je pense, donc il faut aussi suivre là où la vie te mène.
Eh ben, merci beaucoup Marine pour ces conseils et pour cet entretien. C'était trop cool de parler de tout ça avec toi.
Ben merci à toi, Mélissa.
Je t'en prie. Salut.
Salut.
Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Marilyn pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast et à le suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater le début de la saison 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. Ciao !